Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 43, et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors ça résonne un peu, parce qu'on est au consulat honoraire de France. On a la députée de la 11e circonscription française pour les Français de l'étranger.
Bonjour.
Anne Genetet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Europa Voice, première fois dans l'émission Europa
Absolument,
Voice.
Absolument, merci de me recevoir, très content d'être là.
Parlons un petit peu de votre rôle. On va déjà d'abord parler de cette position de rapporteur européen nommé par Jean-Yves Le Drian. C'est un beau titre.
Alors nommé par la Commission des affaires étrangères.
Au sein de l'Assemblée.
Non, c'est pas par Jean-Yves Le Drian. Le projet de loi est présenté par Jean-Yves Le Drian et la décision de nommer un rapporteur pour travailler sur ce projet de loi est faite par la Commission des Affaires étrangères. Séparation des pouvoirs.
D'accord. Le rôle, en deux mots.
Alors, le rôle, c'est étudier le projet de loi et, en ce qui me concerne, convaincre mes collègues parlementaires que c'est un bon projet et qu'il faut le voter.
Alors, quels sont les arguments pour convaincre justement vos collègues que c'est un bon projet et qu'il faut le voter ?
Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans le projet ? Le projet, c'est un accord cadre entre l'Union européenne et l'Australie qui est un accord politique qui vise à finalement mettre un cadre, donc mettre un peu des règles, pas forcément contraignantes mais importantes, pour élargir la relation sur tout un champ d'action, la justice, le développement durable, l'économie, l'éducation, la recherche, l'innovation, la politique, etc. Donc sur tous ces champs, aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe des relations déjà entre l'Union européenne et l'Australie. Alors certains diraient, pourquoi mettre autre chose ? Ben parce que les relations qui sont créées aujourd'hui, elles sont, je dirais au petit bonheur, la chance, en fonction des relations interpersonnelles que les gens peuvent avoir, et pas forcément contraignante. Donc du coup, si à un moment ou un autre, il y a un creux dans la relation parce que, je ne sais pas quoi, il y a une nouvelle personne, le poste est vacant, que sais-je, il ne se passe rien. Et la relation entre l'Union européenne et l'Australie a besoin d'être nourrie et renforcée. L'Australie en a besoin et l'Union européenne en a besoin aussi. L'Australie, il ne faut pas l'oublier, une position géostratégique fondamentale dans le Pacifique. Ok, c'est down under, c'est peut-être loin en kilomètres, mais il faut que ce soit prêt par la relation et l'amitié qui nous lie. C'est fondamental.
Votre référence à l'axe Indo-Pacifique, cher au président de la République Emmanuel Macron, alors, Paris, New Delhi, Canberra.
Voilà, alors il a matérialisé, formalisé, défini un concept qu'il a appelé l'axe Indo-Pacifique. Mais pourquoi ? Parce que le président de la République a très vite compris, et je m'en réjouis, que l'Australie est un acteur fondamental, le Pacifique est un lieu fondamental. Les États-Unis l'avaient compris déjà à l'époque de M. Obama, ils avaient compris que l'avenir du monde n'est pas forcément en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est leur vision à eux, mais plutôt se décaler vers l'Asie et donc aussi vers le Pacifique. Et donc on ne peut pas laisser l'Australie toute seule. Nager, si je puis dire, dans un environnement dans lequel elle a des voisins qui ont des appétits un peu différents, une vision du monde, une approche assez différente. Donc il était important que nos liens avec l'Australie soient importants, et l'Australie le cherche aussi, à ne pas être toute seule dans cet environnement.
Mais le rôle de la France au sein justement de cette force européenne, cette position de force européenne, parce que la France est aussi hyper présente dans le Pacifique.
Exactement, et nous on a notre présence dans le Pacifique, à la fois par Tahiti et par la Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que ces deux-là, et on a aussi un littoral, une frontière maritime très importante, une présence maritime importante qui est absolument fondamentale. Donc nous, on a besoin d'exister, il faut qu'on développe nos coopérations d'ailleurs régionalement, entre la Nouvelle-Calédonie par exemple et l'Australie, ou la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Et donc cet axe Indo-Pacifique qu'a conceptualisé le président de la République fait partie de cette prise de conscience de l'importance des relations qu'on doit développer.
Alors vous êtes député de toute cette partie du monde, hein, pas simplement pour... parce que je crois que la circonscription est assez grande. Comment s'est ressenti ailleurs qu'en Australie, ça ?
Alors, je vais déjà parler de la France. Il faut le répéter tout le temps. Heureusement, et ça, c'est les vertus du concept du président de la République, heureusement qu'il a conceptualisé l'axe Indo-Pacifique, parce que franchement, l'Australie, vous en parlez à des Français, de France, c'est une destination de vacances. Hein.
Ouais, ou quand ça brûle. Hein.
Ou quand ça brûle. Et là, pour la première fois, l'Australie a fait la une de journaux français, mais hélas, pas pour des bonnes raisons, pour des raisons bien tristes, avec justement beaucoup d'émotions, bon, ça, je pourrais y revenir. Donc, l'Australie, on connaît, le nom, tout le monde connaît, mais on ne sait pas bien où c'est. On ne sait pas bien à quoi ça peut nous servir. Voilà. Donc, il était important, en conceptualisant l'axe Indo-Pacifique, de coup déplacer la connaissance, le mot Australie, sur des sujets fondamentaux que sont la politique, la sécurité, le maritime, etc. Tous les sujets qui vont nous rapprocher à travers cet accord.
D'accord. Dans ces accords du libre-échange...
Attends, c'est pas un accord de libre-échange. Un accord politique cadre. Ça, c'est important de préciser.
Précisons.
Voilà. Alors, ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu... dans le passé, un certain nombre de régions, de pays avec lesquels l'Union européenne a signé des accords dits à l'époque de libre-échange. Moi, je déteste ce mot parce que c'est faux. En tout cas, des accords, maintenant, on les appelle commerciaux. Et puis, il y a une partie qui sont des accords d'investissement. Et à l'époque, votés par le Parlement européen, puis par chacun des parlements nationaux. Ça a fait beaucoup de vagues avec le traité avec le Canada. L'Europe a considéré en plus que ça ne suffisait pas, parce que du coup, on se concentrait uniquement sur la paix, l'aspect commercial, échange de biens, éventuellement de services, avec ces pays-là, en oubliant complètement les autres parties qui sont la relation politique, sécurité, etc. Donc maintenant, la Commission européenne a imposé que au Parlement européen, on vote d'abord un accord cadre, politique, transversal sur plein de sujets, et cet accord, effectivement, après, conduira à un accord commercial qui, lui, sera une petite partie, qui sera un bébé de cet accord cadre politique et qui permet de travailler ensemble sur beaucoup plus de sujets que simplement les relations commerciales. Et ça, c'est important quand on échange avec un pays. Si on se contente que des échanges de biens, c'est vraiment très réducteur. On a beaucoup d'autres choses à échanger et à partager. D'où l'importance de cet accord cadre. Lui, il est voté par chacun des parlements nationaux. D'accord. Et c'est donc pour cet accord cadre que je suis nommée rapporteure cette fois-ci.
Alors, vous êtes en déplacement en ce moment en Australie. On a la chance de vous avoir à Melbourne aujourd'hui. En dehors de ces aspects commerciaux, qu'est-ce que vous retenez comme coopération ou comme échange qu'il pourrait y avoir entre l'Australie et la France dans le cadre de cet accord cadre, justement?
Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, qui sont liés à mes rendez-vous encore aujourd'hui à Melbourne, et que j'en ai eu d'autres aussi à Sydney dans le même sujet, c'est les échanges, les échanges en matière d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche. Et là, on est sur des sujets fondamentaux. On se rend compte que la recherche n'a pas de frontières, elle ne doit pas en avoir, et qu'on peut avoir en Australie une équipe qui travaille sur un sujet, moi, dans le domaine de la santé, par exemple, que je connais bien puisque je suis médecin au départ, un sujet de recherche en cancérologie. J'étais dans un centre de cancérologie ce matin, et puis ils vont développer une technique particulière. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir une équipe en France qui, elle, va travailler sur une base de données intéressante. Si on associe les deux, d'un seul coup, il y a une synergie et une puissance d'efficacité dans la recherche qui est décuplée. On le sait, ça existe déjà. À partir du moment où on crée un accord, on va pouvoir faciliter derrière la mise en place de financements conjoints. Et là, on passe dans une autre dimension qui est essentielle, parce que se parler, savoir qu'on a des synergies, c'est bien. Après, il faut le financer. Et moi, hier à Sydney, j'ai rencontré des chercheurs qui m'ont dit aujourd'hui, on a, faute d'accord, des difficultés, parce que parfois, c'est une université australienne qui ne veut pas participer au financement d'une étude conjointe France ou Union européenne pour un autre pays, Australie, ou parfois c'est le côté français qui dit non, mais votre truc conjoint avec l'Australie, moi je ne les connais pas bien, je ne veux pas financer non plus. Donc on bute sur les problèmes de financement alors qu'il y a des équipes qui se connaissent et qui savent qu'elles vont faire des choses bien ensemble.
C'est bizarre, parce qu'on pourrait dire que la langue pourrait être un problème, mais c'est vraiment au nerf de la guerre, c'est l'argent.
Heureusement, nos chercheurs français parlent tous anglais maintenant.
Donc, on a évolué.
On fait des progrès. Il y a encore des progrès à faire, mais on a évolué. Et là, c'est vraiment fondamental. Et là, on voit bien que dans le domaine de la recherche, il y a des choses à faire. C'en est un exemple dans le domaine de l'innovation. Donc, il y a vraiment tout un tas de sujets sur lesquels la coopération et définir un accord qui va permettre que les gens se connaissent mieux sans passer par le doute, l'incertitude. Je ne les connais pas. Qui sont ces gens-là? Les Français qui diraient ça à des Australiens ou vice-versa, et qui font perdre un temps fou à des projets qui ont besoin d'avancer vite, parce que face à nous, faut pas l'oublier, on a des gens qui ont beaucoup de moyens, les États-Unis à côté, les Russes, les Chinois, sur des domaines de recherche un peu stratégiques, et qui eux vont pouvoir avancer. Donc nous, il faut qu'on puisse avoir des synergies pour aller aussi vite que ces gens-là.
Est-ce qu'on peut s'avancer à une date?
Alors,
il y a une cible, il y a une idée de date quand même ou pas?
Le Parlement européen met pas d'échéance de date, de deadline. C'est bien dommage.
C'est ma question, justement.
C'est bien dommage. Nous sommes pas forcément très en avance en France, puisqu'il y a déjà à peu près une quinzaine de pays européens qui ont déjà ratifié cet accord. L'Australie nous presse, parce que l'Australie nous dit: vous êtes bien gentil, votre accord cadre, on n'en a pas besoin, on pourrait directement passer à l'accord commercial. Nous, on leur a expliqué que non, et finalement les Australiens sont bien contents qu'il y ait cet accord cadre aussi derrière. Ils nous pressent. On fait partie, pas des tout à fait derniers de la classe, mais on n'est pas... Bon, on va le signer, on va le ratifier. Commission 19 février, séance tout de suite derrière. Donc le Parlement français, ça sera bon, ça sera fait. Ensuite, il y a encore d'autres parlements européens qui doivent ratifier cet accord cadre. Et une fois qu'il est ratifié par tous les parlements, à ce moment-là, on peut passer à l'accord commercial. Mais l'accord commercial, il a quand même déjà commencé. Il y a déjà des négociations en cours. Et on ne va pas démarrer les négociations quand on aura ratifié tout ça, heureusement.
Madame la députée, est-ce que le non-respect, ou en tout cas le respect minimaliste des accords de Paris par l'Australie, pourrait faire que cet accord cadre soit freiné, soit décalé? Est-ce que ça peut avoir un impact, le fait que l'Australie n'est pas encore forcément alignée sur les objectifs en termes de développement durable, etc.
Alors, je pense qu'il faut savoir aussi balayer devant sa porte et que si peut-être on peut critiquer l'Australie, je pense que la France n'est pas exempte de tout reproche. Donc, c'est des deux côtés. Mais c'est pour ça que dans ces accords, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc sur les objectifs de respect des accords de Paris. Et on voit mal, et l'Australie d'un côté et la France de l'autre, accepter de signer ce genre d'engagement sans les respecter derrière. Alors ensuite, il faudra voir, cet accord cadre est un accord assez politique, pas contraignant, il faut le reconnaître, hein, c'est pas contraignant. Mmh. L'accord commercial le sera beaucoup plus. Où là, effectivement, le non-respect d'un certain nombre d'engagements peut faire tomber certaines parties de l'accord. Donc, ou certaines autorisations qui seraient données d'importation, d'exportation, que sais-je, et qui pourraient tomber en cas de non-respect des accords. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps sur l'accord commercial, qui lui est beaucoup plus contraignant.
Mais ce serait un potentiel point de pression pour la France ou pour l'Europe?
Certainement.
Dans les discussions?
Ah bah oui. Absolument, et c'est là que ça devient intéressant, et en plus on a rajouté des choses, puisque à l'Assemblée, il y a à peu près 18 mois, avec une de mes collègues, Olga Givernet, nous avons fait un certain nombre d'auditions et rédigé ce qui s'appelle une résolution qu'on a transmise, alors votée avec nos collègues, qui a été votée par le Parlement, l'Assemblée nationale, qui est la liste un peu des exigences que nous avions, d'éléments que nous souhaitions voir intégrés dans le futur accord commercial Union européenne-Australie. C'est parti déjà au Parlement européen et dans lequel il y avait un renforcement des exigences concernant le respect des accords de Paris.
À une certaine époque, on disait l'Europe, quel numéro ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le numéro de téléphone est celui d'Emmanuel Macron ?
C'est quelque chose qu'on a beaucoup débattu, d'ailleurs. On a beaucoup débattu
en disant qu'il y avait un leadership qui avait été pris par le président de la République française, beaucoup d'initiatives, qu'il avait réussi à driver l'Europe, l'Union européenne, dans des moments difficiles où tous les pays n'étaient pas forcément alignés, par exemple les négociations de Brexit. Est-ce que c'est quelque chose, maintenant qu'on est à mi-mandat, est-ce qu'on peut dire, oui, le président de la République s'investit véritablement dans les dossiers européens et porte une vision très spécifique des projets européens?
Sachant que à la fin de son quinquennat, la France sera à la tête de l'Union européenne.
Voilà. Sur les 6 derniers mois, oui.
Voilà. Donc là, sachant ça, est-ce que ça y joue, en fait?
Alors, certainement. Lui, certainement. Vous avez vu qu'en 2017, il s'est fait élire. C'est le seul candidat, et pour la première fois, qui s'est fait élire en annonçant publiquement, en mettant même en avant son engagement européen. Ça, c'était jamais vu jusqu'à présent. Et ça a marché. Son électorat a suivi, a été porté par les valeurs européennes qu'il défendait. Alors ensuite, c'est vrai, je pense qu'il a effectivement un rôle de leadership. Je ne me rends pas compte, je suis extrêmement prudente, si ce rôle est peut-être pas un peu magnifié côté français. Je voudrais donner un exemple en politique étrangère, qui est tout récent, qui date de la semaine dernière, où on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais il y a une initiative sur la Libye qui a été prise par Mme Merkel. On n'attend pas forcément Mme Merkel sur les sujets internationaux. En l'occurrence, c'est elle qui a pris l'initiative sur la Libye.
Avec la conférence de Berlin, également.
Exactement. Voilà. C'est vraiment elle qui a pris l'initiative. Donc, oui, je suis très contente de voir l'engagement que le président de la République met à défendre les sujets européens, à apporter une vision en plus européenne qui est claire, à essayer de réinventer aussi un multilatéralisme parce qu'il est fortement secoué en ce moment. Et c'est lui d'ailleurs qui a proposé que des projets européens soient portés par un petit groupe de pays avant d'être étendus à d'autres, plutôt que de vouloir partir dans le sens contraire comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire vouloir mettre tout le monde d'accord pour mettre en œuvre une politique. Et ça, c'est quelque chose de très fort, qui n'a pas encore été complètement mis en œuvre, quoi qu'on peut le voir avec les accords de Minsk, qu'on peut le voir avec le dialogue format Normandie, on peut le voir, bon, pardonnez-moi, je parle de sujet de politique étrangère parce que c'est ce qui me porte dans mon activité au Parlement.
Non, mais c'est le principe d'Europa Voice, hein, donc allons-y.
La conférence de Berlin, tout ça sont des projets qui sont effectivement une réunion de quelques acteurs européens autour desquels d'autres après pourront se greffer. Donc quelque part, ce que nous faisons avec la taxe GAFA, on est les premiers à l'avoir initiée et on espère que d'autres pays européens se rallieront à notre cause. Donc cette démarche qu'a le président de la République est de dire arrêtons de vouloir mettre tout le monde d'accord, on n'y arrivera jamais ou ce sera un truc vide et pas intéressant, mettons-nous d'accord à quelques-uns sur un projet et voyons comment on peut agrandir ensuite le cercle des convaincus. Donc ça, c'est très bien.
Ce qui explique, Christophe, aussi pour nos auditeurs d'Europa Voice, la position française sur les négociations avec certains pays des Balkans. Ben, les négociations ne sont pas encore ouvertes parce qu'on est toujours en ce débat approfondissement versus élargissement.
Là, le président de la République a une position très claire.
Oui, voilà.
Mais, oui, on l'a débattu dans... Je ne sais plus quelle émission, d'ailleurs, mais on l'a débattu.
Ça rejoint aussi cette idée de réunir peut-être un petit groupe de pays, de décider à... de manière peut-être plus efficace avec un nombre restreint de pays avant d'élargir les discussions.
Ça, c'est important. Et on voit que d'autres pays, alors je ne sais pas s'ils se sont inspirés de cette méthode, pardonnez-moi, j'exagère un petit peu l'influence que pourrait avoir notre président, mais la Nouvelle-Zélande a annoncé une initiative extrêmement intéressante, là, avec 5 pays. Donc il y a la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Norvège, le Costa Rica et Fidji. Sur un engagement par rapport au développement durable, justement, comment négocier des accords commerciaux qui seraient de lever les barrières tarifaires autour des produits qui ont un impact positif sur l'environnement, créer un label, un écolabel, et il y a un troisième point, il y a 3 points dans leur projet. Donc ils vont voir s'il y a 5 qui peuvent mettre en place un accord autour de ça, et ensuite voir et dire si d'autres ça les intéresse, on pourra leur proposer de rentrer dans ce type d'accord. Donc on voit que là, il y a aussi la réinvention d'un multilatéralisme complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. Très intéressant.
Alors, dans EuropaVoice, on a l'épisode 43, on a dû faire 30 épisodes sur le Brexit. La perte du Royaume-Uni au sein de l'Europe va être actée dans les prochains jours. C'est votre première visite depuis en Australie, depuis que Boris Johnson a réussi à tout faire passer. Vous avez senti quoi ? Est-ce que ça change quoi que ce soit dans les relations Europe Australie. Où est-ce qu'on a déjà passé ce cap ?
Du point de vue français, il y a une conscience aiguë que c'est une opportunité pour nous. Et je pense que du côté australien aussi, ils l'ont bien senti.
Alors là-dessus, est-ce que la France serait même de facto en pseudo-compétition avec l'Allemagne, par exemple, pour créer cette ouverture australienne, européenne ? Où est-ce qu'on est main dans la main avec l'Allemagne ?
Ni l'un ni l'autre. Je veux dire que, hélas, on est déjà en compétition avec l'Allemagne depuis toujours, partout, sur tous les marchés. Enfin, je préfère parler franchement, il faut être honnête.
Ouais,
ça se voit dans tous les pays. Alors, j'en ai 49 dans la circonscription, je ne suis pas allée partout, mais un certain nombre. Je suis navrée de devoir reconnaître que pratiquement partout, la France et l'Allemagne sont concurrents. J'ai pas vu un endroit pour le moment, pas un pays ou un secteur d'activité ou une branche sur lequel ou sur laquelle la France et l'Allemagne avançaient main dans la main pour gagner un marché. Je n'en ai pas vu une fois. Donc ça, je crois que Brexit ou pas Brexit, pour le moment, c'est extrêmement regrettable. Parfois, il y a certains pays, notamment en Chine, où là, il y a une compréhension des acteurs européens qu'il est préférable d'avancer avec l'étiquette Europe qu'avec une étiquette de pays propre. En plus, la notion de couple franco-allemand, c'est un mot qu'on utilise chez nous. Jamais les Allemands en allemand ne l'utilisent.
Absolument.
Donc, la relation France-Allemagne, donc jamais à deux, mais c'est pareil avec d'autres pays. Il n'y a pas non plus l'Italie et la France qui avancent ensemble, ou l'Italie et l'Allemagne. Ou, voilà, ça Donc, hélas, le Brexit n'y change rien.
D'accord. Et ça ne change rien au point de vue relation européenne-Australie.
Alors nous avons, et moi en interrogeant différents acteurs, notamment du côté de la diplomatie française, donc pardonnez-moi de retranscrire leurs mots, il y a quand même l'idée qu'il y a une opportunité ici pour placer l'Europe. En fait, il va falloir que l'Australie négocie ses accords avec la Grande-Bretagne maintenant.
Absolument.
Et c'est pas fait. Donc du coup, il y a un vide de facto qui est créé et que l'Europe a tout intérêt à combler en disant l'Australie, nous, c'est fait. On peut y aller. Donc nous, on a bien conscience de ça. Et ce Brexit est une opportunité.
D'accord.
Voyons le verre à moitié plein, pour une fois.
Non, mais tout à fait. Pour conclure, on l'a dit, vous êtes donc aussi député des Français de l'étranger. 11e circonscription, énorme circonscription. Mmh. Aujourd'hui, à Melbourne, vous étiez auparavant à Sydney. Le sentiment en ce moment, vous avez pu rencontrer la communauté, vous n'habitez pas ici, vous venez de temps en temps. Le sentiment en ce moment ?
Alors, je ne peux pas prétendre connaître la communauté. Hein. Je vais rester un peu humble par rapport à ça. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui ne représentent pas forcément la totalité de la communauté. Mais les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer sont des personnes qui sont plutôt jeunes. À chaque fois, ce qui m'a frappé, en fait, hein, quand je suis venue en Australie, là, je retrouve la même chose, qui témoigne d'une amitié très forte avec les Australiens, un attachement, un vrai lien. Je vous assure que, pourquoi je le dis ? Parce que pour aller dans d'autres pays, j'ai des Français qui vont être présents parce qu'il y a une activité économique, il y a un engagement et quelque chose, mais il n'y a pas forcément de proximité affective, intellectuelle véritablement avec le pays dans lequel ils sont. C'est une présence d'opportunité, de pragmatique, c'est tout. Là, il y a autre chose qui se passe avec l'Australie. Il y a un lien un peu différent. Et alors, l'accueil des Australiens que j'ai pu rencontrer aussi est étonnant. Ils sont à chaque fois, et j'avais déjà la même chose la dernière fois, extrêmement accueillants, très contents d'en recevoir des Français. Et je sens une sincérité. Je vous assure qu'il y a un ensemble de pays dans lesquels je vais. J'ai pas du tout. D'abord, il faut que j'arrive à avoir des acteurs locaux. C'est pas gagné. Et ensuite, l'accueil qui m'est fait est un accueil protocolaire.
D'accord.
Moi, j'avais entendu, je crois, lors d'une de vos interviews où j'avais lu que vous disiez que les Français de l'étranger n'étaient pas des Français à part, mais des Français à part entière. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes encore sur cette...
Ça, je le défendrai pour toujours. Ouais, je persiste à le dire. J'avais senti depuis les premières années où je suis à l'étranger, maintenant ça fait quand même un paquet d'années, j'ai passé en tout 17 années déjà à l'étranger. Oui, je l'ai toujours senti, qu'on n'était pas forcément bien compris. Quand on rentre chez soi, on a une certaine timidité, réserve à parler de notre vie ailleurs parce qu'on a l'impression qu'on ne se comprend plus, qu'on vit dans un autre monde, que les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Donc, faut toujours parler de ce qu'on vit à l'étranger avec précaution pour pas froisser ceux avec qui on parle. Donc d'où ma conscience depuis très longtemps qu'on est pour le moment perçu plus comme des Français à part. Et ça, il faut lutter contre ce schéma parce que ça a un impact pour plein d'autres choses. Par exemple, s'agissant, on parlait de coopération, je pense qu'il y a un défaut de compréhension du fait, en France métropolitaine, du fait que nous avons à l'étranger un certain nombre de Français qui sont des atouts incroyables, qui travaillent notre influence. Les chercheurs que j'ai rencontrés là, quand on les rencontre, ce sont des gens qui, forcément, les Australiens savent qu'ils sont Français par leur accent, par leur comportement, par ce qu'ils racontent, et contribuent à donner une image positive de ce qu'est la France. Et donc, au-delà de ça, de ce qu'ils font, après, c'est l'influence de la France qui est en jeu. Ça veut dire que dans d'autres circonstances, les gens avec qui ils travaillent, dans un autre environnement, peuvent être amenés à rencontrer différentes nationalités, à se dire « Ah, mais les Français, je les ai déjà vus dans tel environnement, vachement bien ces petits Français, etc. » Donc, ces gens-là contribuent à l'influence positive, à l'image positive de la France. Et je trouve qu'en France métropolitaine, on ne s'appuie pas assez de loin sur ces communautés. Et donc depuis le début, et je ne lâcherai pas, je veux défendre ces communautés qui sont l'essence de notre influence dans le monde.
Mais est-ce que par exemple, on ne communique pas assez non plus sur l'influence de la France ? Je prends l'Australie purement, de votre côté, du côté français, sachant que la moitié des ferries à Sydney, ils sont gérés par une entreprise française, le contrôle aérien, c'est un contrôle aérien français, telle ou telle influence dans énormément d'industries, la France a un impact au jour le jour dans la vie de plein d'Australiens. Mmh. Par contre, quand on est Australien, on le sait pas.
Alors ça, c'est une très bonne remarque. Très bonne remarque et qui est vraie en Australie, mais sans doute pas seulement en Australie.
Absolument, ouais.
La France ne sait pas mettre en valeur ses contributions.
Chose que les Britanniques font très bien.
On devrait faire des grandes campagnes de com en Australie pour dire votre ferry, il est français, votre machin, il est français. Et pour le dire, il n'y a pas de honte à ça, il n'y a aucune arrogance derrière ça. Mais il faut, ça pourrait contribuer fortement à imprimer la marque France. Il faut le dire. Et ça, c'est vrai, alors je pourrais dans le monde entier. Un autre exemple, quand le président de la République est allé pour la première fois en Chine, à la française, alors, grande délégation, machin, etc. Mais on a finalement annoncé, confirmé le voyage, les dates, etc., genre 3-4 semaines avant le déplacement réel. Quand Monsieur Trump se déplace, il y a une campagne de com énorme. Il y a des placards dans les journaux qui parlent États-Unis, qui parlent produits américains, qui parlent influence américaine, et puis on finit par parler de Monsieur Trump. Tout ça, ça monte en puissance, et quand il arrive, il est acclamé comme, j'allais dire, presque comme un roi. Donc, et nous ne savons pas faire ça.
Plus de Choose France, en fait.
Exactement. Bien fait. Il faut vraiment communiquer. On va venir, on arrive, mais sans arrogance non plus. Hein, on n'est pas là pour... Mais ça vaut le coup de le dire. Et ça imprime et ça va, je pense, décupler l'efficacité de nos déplacements, de notre présence et puis au-delà de notre influence. Si on avait une grande campagne de com' comme ça, tous les petits Français qu'on a partout, petit, pas au sens péjoratif, mais au sens petit nombre, qu'on a un peu partout, eh ben, j'imagine bien leurs voisins de bureau, leurs voisins de palier australiens, leurs commerçants, leur dire « Ah, au fait, j'ai vu un truc dans le journal ce matin sur la France, c'est vrai que votre président y vient, c'est vrai que mon ferry, il est français ?» Et voilà, et au-delà des ferries, on fait pas seulement des ferries, on fait des bateaux à Saint-Nazaire, on fait absolument des hélicoptères, ouais. Et voilà, donc ça ferait partie d'une campagne de com' efficace, pas forcément qui coûterait beaucoup.
Absolument, affaire à suivre.
Affaire à suivre, merci beaucoup madame la députée.
Merci à vous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.